Pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre sur l'actualité internationale. Et bienvenue à la technique, à Jules, qui est là pour faire le travail que fait d'habitude Roselyne, que je remercie. Et d'ailleurs, je vais dire, Jules, présente-toi, parce qu'à la Radio Galère, on accueille beaucoup de gens nouveaux, on voit beaucoup de têtes nouvelles quand on passe, et donc Jules fait partie des têtes nouvelles. Et il va nous dire en quelques mots qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là, est-ce qu'il se sent bien. Voilà.
Eh ben bonjour à tous, moi je m'appelle Jules et je suis actuellement service civique à Radio Galère.
Voilà.
Je viens du Maine-et-Loire et plus précisément d'Angers.
Très bien.
Et je viens d'arriver sur Marseille, une ville plein de soleil et qui me plaît beaucoup.
Qui te plaît beaucoup.
Et voilà, et je suis très content d'animer cette émission Comaguerre que j'écoute régulièrement.
Merci.
Voilà.
Et quand même un coup de chapeau pour Angers qui est une très belle ville.
C'est
et
ça.
Pas très loin d'Angers parce qu'il y a un film récemment qui est passé à l'automne là, qui parle de cette région-là.
Oui.
Hein, tu l'as vu.
Oui,
je ne me souviens plus du titre exact. Tu te souviens du titre?
Je ne saurais plus dire non plus. Hein, mais je venais d'arriver sur Marseille. Et
voilà,
et
c'était un film très intéressant puisqu'on voyait un peu la jeunesse rurale avec ses difficultés d'insertion et tout, ses conflits, etc. Et on y faisait référence, ça c'est un clin d'œil pour les historiens, à une tapisserie extraordinaire qui se trouve dans un musée dont tu vas peut-être nous dire le nom exactement.
C'est la tapisserie de l'Apocalypse et
voilà.
C'est au château d'Angers, le célèbre
voilà,
château d'Angers.
Hein. Très très remarquable et peu connu. Enfin, je compare ça à la tapisserie de Bayeux qui est beaucoup beaucoup plus connue. Et en fait, c'est un ouvrage quasiment aussi ancien et qui a été sauvé par miracle. Voilà. Donc
c'est
ça, c'est le clin d'œil touristique de Comaguerre. Si vous allez à Angers, d'abord le Val-de-Loire, c'est très très beau. Et puis vous avez un témoignage historique de l'activité artisanale et artistique dans ces régions. Voilà. Merci Jules pour ta présence. Bien, je salue Habib qui vient d'arriver et tout, que je suis content de trouver. Et on va commencer. Alors, j'ai un petit doute sur dans quel ordre faire les choses. Ben d'abord, ça a été très, très animé à tout point de vue. Et je vais peut-être commencer par vous parler d'un certain nombre d'élections qui sont passées et qui méritent qu'on s'arrête, qu'on les examine. D'abord, il y a eu des élections au Venezuela. Au Venezuela, alors vous savez que le Venezuela est un endroit contesté, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, l'impérialisme et les États-Unis veulent se débarrasser du régime chaviste et donc de son président et de son parti Nicolas Maduro. Et ils ont fait tous les efforts en ce sens. Et puis manifestement, maintenant, la page est en train de se tourner et ces efforts ont été vains. C'est-à-dire que le parti donc, socialiste unifié du Venezuela, donc parti fondé par Hugo Chavez et dont Nicolas Maduro et le leader actuel, a gagné ces élections. Alors, un premier critère, il y a eu des élections de gouverneurs des provinces, et sur 24 provinces, le parti Chavez a obtenu 23 sièges de gouverneur, dont en particulier un siège qui est pris dans un endroit qui était contesté par le propre frère de Hugo Chavez. Ça, c'est la première donnée, donc 23. Il ne reste qu'une seule région donc, qui est aux mains de l'opposition. Et au niveau de la représentation parlementaire, il s'agit d'élire un parlement, le PSUV est très très largement majoritaire. Et en gros, en termes de voix, dans les dépouillements qui ne sont peut-être pas tout à fait intégraux à l'heure où je vous parle, puis ça a eu lieu dimanche, le parti chaviste, pour faire simple, a obtenu 44% des voix. Et les deux partis d'opposition sont là à 6 et l'autre à 5%. C'est-à-dire que l'opposition, malgré toute l'agitation médiatique, malgré les interventions des États-Unis, malgré les tentatives, il y en a eu moins ces derniers temps, mais il y en a eu ces derniers temps de faire tomber le régime par toute une série d'actions de type terroriste ou contre-révolutionnaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en même temps, Et là, le Maduro récolte largement les fruits de sa politique, c'est-à-dire qu'il s'est efforcé, et son gouvernement, d'amener beaucoup plus de nourriture dans la casserole et dans l'assiette des Vénézuéliens. C'est ça qui était très très important, c'est-à-dire qu'attaquer sur sa ressource, qui était la ressource d'un pays rentier, c'est-à-dire un pays dont l'essentiel du budget était alimenté par la rente pétrolière, quand il a vu que cette rente pétrolière était menacée, que l'activité pétrolière qui était en partie, alors l'activité pétrolière vénézuélienne en plus était en partie installée sur le territoire des États-Unis. Je rappelle ça, ben c'est assez rare, c'est-à-dire le pétrole était extrait au Venezuela par une société qui était nationalisé, ça c'était sur le papier, mais en pratique, il était raffiné sur le territoire des États-Unis, dans des raffineries qui appartenaient à la société vénézuélienne, mais que les États-Unis ont volé, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, pour les remettre en cadeau de soutien politique à l'opposant qu'ils avaient choisi, donc le fameux Guaido, qu'on a présenté comme le vrai président du Venezuela. Il n'était rien du tout, il avait été battu aux élections, mais il était sur un tas d'or, c'est-à-dire que M. Guaido s'est vu comme cadeau militant des États-Unis. On lui a offert 4 raffineries en pleine exploitation sur le territoire du Texas et des États voisins. Alors effectivement, on devient riche à très peu de frais dans ces conditions-là. M. Guaido, avec cette qualité, il était riche du vol qui avait été fait par le gouvernement des États-Unis sur les ressources de son propre pays. Bon, cette page-là est tournée, mais en même temps, quand l'économie pétrolière vénézuélienne a eu des difficultés, très intelligemment, l'équipe de Maduro et les chavistes ont décidé de se préoccuper de ce qu'il y avait tous les jours à manger dans les maisons vénézuéliennes. Et donc, ils ont relancé en particulier une agriculture qu'on dirait vivrière, c'est-à-dire qu'on a affaire à un territoire très très riche, une terre très très riche, et ils ont dit il faut, et ça rappelle un peu d'une certaine façon Sankara, mais sous une autre latitude, il faut que chaque Vénézuélien ait quelque chose à manger tous les jours qui ne soit pas un produit d'importation. Cette idée d'autosuffisance alimentaire, qui est une idée élémentaire quand on veut être souverain chez soi, c'est-à-dire il faut que sa population, elle ait à manger, elle ne soit pas dépendante de l'achat de grains ici, de blé là, de maïs ici, etc. Ça s'est fait, et puis toute une série d'activités artisanales. Donc, en fait, on a une nouvelle économie vénézuélienne qui a été fabriqué. Alors le pétrole n'est pas parti, il est toujours là. Et même entre-temps, on a mieux réévalué les réserves pétrolières du Venezuela. Retenez simplement ceci, les réserves pétrolières du Venezuela sont les plus importantes du monde aujourd'hui. Alors elles ne sont pas toutes exploitées, loin s'en faut. Il a quelques difficultés techniques, c'est-à-dire c'est un pétrole assez lourd, quelquefois avec du soufre à l'intérieur. Mais en termes de volume, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun géologue ne fera le critiquera. Mais ce n'est pas pour l'instant mis en exploitation. Donc on peut dire que le Venezuela a des réserves le jour où l'économie s'ouvrira un peu plus et où il sera moins boycotté par le camp occidental. Ça, c'était le premier point important côté électoral. Et puis, une autre élection qui mérite d'être un peu détaillée, encore là, c'est assez compliqué, il s'agit des élections municipales au Liban. Alors, les élections... Oui. Alors, d'abord, elles ont eu lieu, ce qui est en soi un premier événement. Elles n'avaient pas eu lieu depuis 2016. Une paille, bon, parce qu'effectivement, situation troublée. Alors, ça... Oui, oui, même peut-être à des endroits où il y a encore des soldats israéliens, peut-être ici ou là, cachés dans les fourrés. Bon, donc effectivement, elles ont eu lieu, et donc c'était la première fois donc depuis 9 ans qu'il y avait des élections municipales. Alors ça se passe, c'est très très instructif en ce sens que, à la différence des élections législatives, etc., là, chacun doit voter dans son village et on ne peut pas voter ailleurs que dans son village. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manipuler le fichier électoral. Ça, c'est très, très important. Et un des résultats, alors je n'ai pas le détail, je ne sais pas si Habib a regardé ça d'un peu plus près, mais un des résultats les plus intéressants, c'est que malgré tous les espoirs occidentaux, les zones, ou plutôt les régions, ou les villes, ou les communes, où le Hezbollah était majoritaire, il le reste très très largement.
Très largement majoritaire. Voilà.
C'est-à-dire qu'il ne s'est pas écroulé. Alors ce qui était attendu, c'était effectivement dire, ça y est, le Hezbollah a disparu, il s'écroule. Ben, il ne peut pas s'écrouler parce qu'en fait...
Toute la plaine de la Mecca.
Voilà, il est chez lui, il habite là. C'est ce qu'on a dit au moment où il y avait les combats du Hezbollah contre l'armée sioniste. C'est-à-dire que le Hezbollah, la force du Hezbollah, c'est qu'il est toujours chez lui. C'est un maquisard sur place tout le temps. Il se bat dans ses champs, il se bat dans les granges, il se bat dans les cours d'eau, il se bat caché derrière des arbres. Il connaît le terrain comme personne et donc il est très, très, très difficile
c'est
à éliminer.
C'est une des résistances la plus ancienne au Moyen-Orient.
Tout à fait. Et donc là, le poids politique du Hezbollah vient de cet enracinement extrêmement profond. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, dans chaque village, il y a à la fois des combattants du Hezbollah, mais toute la population est derrière eux. C'est-à-dire que quand le combattant du Hezbollah a des ennuis, il est suivi par un tireur sioniste qui lui veut du mal, il va se cacher et tout le monde lui ouvrira la porte. Et ça, c'est très très important de bien se rendre compte de cet enracinement. Donc, premier enseignement politique, et je pense qu'il est d'importance, tu me confirmeras, mais le Hezbollah n'est pas mort.
Mort, non, voilà. C'est sûr.
Voilà.
Et
il attend...
D'ailleurs, son secrétaire, il l'a dit et... Il a bien dit que la résistance continuera. C'est pas fini, c'est pas terminé.
Bien sûr.
Bon, là, il y a eu quand même, moi, je pense politiquement, il y a du magouillage, voilà. Politiquement, c'est vrai, entre le pouvoir politique qui est en place, qui est toujours contacté
bien
par
sûr,
les Américains, et Hezbollah n'est pas mort, c'est sûr.
Voilà, n'est pas bon. Voilà. Et là, d'où l'intérêt de ces élections municipales qui sont les plus fidèles, la plus fidèle image du corps électoral. Parce que dès qu'on monte au niveau supérieur, législatif, formation du gouvernement, ça se règle dans des tractations entre partis, en des équilibres complexes et quelquefois acrobatiques d'ailleurs entre les différents courants, selon leur puissance, selon les moments de l'histoire. Ça fait partie aussi constitutivement de l'histoire du Liban. Mais je voulais signaler cet événement nouveau. Qui a de l'importance. Et puis, puisqu'on va rester un petit peu dans cette région-là du monde, je vais vous parler de la visite d'un personnage. Alors, je vous ai parlé déjà la semaine dernière du nouveau président équatorien, M. Noboa. Alors, il vient d'être intronisé, c'est-à-dire il avait été élu il y a à peu près 3 semaines dans des élections contestées, c'est-à-dire jeudi, il a été élu. En fait, l'opposition a considéré qu'elle ne reconnaissait pas le résultat de l'élection présidentielle de M. Noboa, mais les autres pays ont considéré que c'était le bon, et puis le Conseil constitutionnel s'est laissé faire, bon, etc. Par exemple, la demande de la candidate battue de recompter les bulletins pour vérifier le résultat réel, a été refusé. C'est-à-dire qu'on reste sur le fait que le résultat des élections, il est contesté par les perdants, qui ont quand même eu au moins 45% des voix. Et donc M. Noboa est considéré comme ayant été élu, alors qu'aucune preuve de son élection ne peut être apportée. Ceci étant, ce monsieur le bras long, a le bras extrêmement long. Et donc, avant même d'être mis à... intronisé, donc c'était hier, je crois, dans la capitale de l'Équateur, à Quito, ce monsieur a fait une tournée pour montrer où vont ses amitiés. Et là, c'est très très intéressant de suivre la tournée que M. Noboa a fait. Il a fait une tournée, il a fait quasiment un tour, ou au moins un demi-tour du monde. Et écoutez où il est allé. Il est allé en Espagne, il est allé en Italie, il est allé aux Émirats arabes unis, il est allé en Israël, et vous savez, je l'avais signalé qu'il était venu en France, puisqu'il avait profité d'un entretien amical qu'il avait eu avec M. Emmanuel Macron pour être reçu par le directeur de la banque Rothschild avec lequel il a des projets. Voilà les amitiés de M. Noboa.
Ah ouais.
Mais je reviens sur le reste du parcours, puisque je crois que la visite en France a été la dernière du périple de M. Noboa. Et donc il est allé, là je vous disais, en particulier dans les Émirats arabes unis, où il a été fort bien reçu, et où il a été question d'échanges de technologies, bien entendu de pétrole, encore que l'Équateur ait un peu de pétrole sur son sol, et où il a été question d'une espèce d'alliance stratégique sur l'intelligence artificielle, les biotechnologies, tout ce qui est à la mode dans les échanges entre pays, ce qui veut dire que les Émirats arabes unis, ça confirme une analyse qu'on avait déjà présentée devant ce micro, sont devenus un des maillons de l'international pro-nazi. C'est clairement. beaucoup plus que l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite était prévue au programme de Noboa, puis finalement, l'étape a été sautée. Mais avec les Émirats Arabes Unis, on a affaire effectivement à un des points forts, avec beaucoup d'argent, aucune opposition politique, de la nouvelle alliance néo-nazie. C'est comme ça que je l'appelle, parce qu'il faut bien avoir conscience que autour de Trump, de Zelensky, du roi du Maroc qui en fait partie indirectement, de Mohamed bin MBZ, comme on l'appelle, Mohamed bin Zayed, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, le prince héritier d'Abu Dhabi en fait, qui est la principale puissance à l'intérieur des Émirats Arabes Unis, on a affaire à un des bastions de la nouvelle internationale néo-nazie en cours d'organisation. Alors pourquoi je dis en cours d'organisation de cette internationale néo-nazie ? Parce qu'effectivement, l'arrivée de Trump au pouvoir marque un moment où la diplomatie des États-Unis et l'Amérique, la stratégie militaire des États-Unis, se dit qu'il faut contre-attaquer. Alors contre-attaquer, ça veut dire effectivement essayer de reprendre de l'influence dans les pays où les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, enfin toute une série d'organismes nouveaux qui ont prospéré ces 20 dernières années, en gros depuis les 20 premières années du siècle 21, il faut contre-attaquer. C'est-à-dire chaque fois que c'est possible, retourner la situation et faire changer un pays de ses alliances. Alors dans le cas de l'Émirat arabe uni, c'est assez avancé, puisque chaque fois qu'il en a l'occasion, l'émir bin Zayed tombe dans la, enfin, participe à cette politique donc anti-chinoise, anti-russe, etc., cette politique proprement trumpienne, beaucoup plus que l'Arabie saoudite, qui est beaucoup plus prudente. Et donc là, on a affaire...
Le patron, c'est l'Arabie saoudite, quand même.
Oui, mais en fait, l'Arabie saoudite, je pense, plus prudente. Il a une population plus importante à nourrir, il a un territoire plus grand, etc. Ouais. Alors que les Émirats arabes unis, il y a à garantir une raffinerie, 3 puits de pétrole, et puis pas grand-chose. Et les tours de Dubaï, bon, ben ça, voilà. Mais, donc il n'y a pas grand-chose. Et en plus, sur le territoire de la République des Émirats arabes unis, il y a 10 millions d'habitants, dont 9 millions qui n'ont pas le droit de vote. Donc, ça donne une certaine tranquillité politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais, Ils travaillent, hein, c'est travail et tais-toi. Hein. Puisqu'en gros, c'est ça, vous savez que si jamais, et il y a eu quelques cas, vous essayez de manifester parce que votre salaire n'a pas été payé et tout, le lendemain, on vous remet dans l'avion et vous repartez, en Afghanistan, qui au Bangladesh, etc., affaire classée.
Aux Philippines.
Bon, affaire classée. Donc, manifestement, donc, M. bin Zayed se positionne maintenant comme un qui a retourné sa veste. Bon, je considère. Alors, il est toujours dans les BRICS, parce que de toute façon, dans les BRICS, il n'y a pas une technique, on n'est pas adhérent et on peut être exclu, il n'y a pas d'assemblée générale. Il y a des réunions des BRICS où on parle d'intérêts communs, où on parle d'échanges, d'aide, etc. Mais il n'y a pas une structure qui serait un équivalent de l'Union européenne ou de l'Assemblée générale de l'ONU, alors, où il y aurait des décisions et on pourrait être exclu. On n'est pas exclu des BRICS, mais on peut en fait se mettre à la marge des BRICS et avoir plusieurs alliances à la fois. Alors j'allais dire, bin Zayed, c'est un peu un petit Erdogan, c'est-à-dire toujours entre deux chaises. Il est ami avec tout le monde, mais en fait, il défend quand même ses intérêts. Et puis là, il a pris clairement position dans le camp de la nouvelle internationale néo-nazie. Beaucoup plus qu'Erdogan, qui est plus prudent. Puis Erdogan a des intérêts plus grands, il a plus de monde, il a un pays plus grand, etc. Et il est dans l'OTAN, en plus. Donc voilà, monsieur bin Zayed et ses Émirats arabes unis. Et la deuxième visite dans la région a été en Israël même. C'est-à-dire que la ministre des Affaires étrangères de M. Noboa, qui était déjà sa ministre des Affaires étrangères dans son premier cabinet, puisque M. Noboa a été réélu à la présidence de l'Équateur, Mme Sommerfeld, est allée inaugurer un centre d'études, d'échanges intellectuels, techniques, scientifiques, etc., à Tel Aviv même. C'est-à-dire qu'on a affaire à une amitié qui est plus qu'une amitié technique. C'est-à-dire qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Équateur est la base israélienne en Amérique latine.
Ouais.
Alors ça a été longtemps l'Argentine. Mais l'Argentine, c'est plus compliqué, c'est agité l'Argentine, surtout en ce moment avec les actions du nouveau président. Et donc, en fait, on peut considérer, et c'est ce qui est bien vu à Washington et à Tel Aviv, qu'on a là, enfin, une base sioniste en Amérique latine très, très sûre, grâce, effectivement, à la présence du mania mondial de la banane, puisque je rappelle que l'Équateur est le premier exportateur mondial de bananes. ce qui donne, ce qui explique la fortune de Monsieur Noboa père et de Monsieur Noboa fils. Donc, deuxième étape très très importante à Tel Aviv. Alors, ça a l'air de rien, mais des relations techniques. Il faut savoir que dans les techniques qui sont à l'honneur dans ce nouveau centre de coopération équatoriano-israélien, il y a toutes les techniques de pointe. C'est-à-dire qu'en fait, l'Équateur est en train d'accéder à toute une série de techniques qui sont celles... Alors, bien sûr, il y a des techniques de pointe en biotechnologie et tout, mais il y a aussi des techniques de pointe que nous connaissons bien ici, qui sont de surveillance de l'opinion, de reconnaissance faciale, toutes ces activités qui permettent de cerner une opposition et de l'éliminer physiquement si nécessaire. C'est ça le gros apport de la technologie sioniste à des pays comme l'Équateur. Parce que ce monsieur-là, bien qu'il ait volé les élections, est inquiet. Puisqu'il sait bien qu'une partie de la population ne le veut pas. Et qu'il a une vraie opposition politique qui existe en espérant qu'il n'arrivera pas à l'éliminer.
Il faut boycotter les bananes de l'Équateur.
Voilà, alors des bananes, alors, si vous voulez boycotter, alors vous avez du choix, vous avez du choix. Juste à côté, il y a beaucoup, il en arrive d'ailleurs, je constatais sur les marchés ici, il y a beaucoup de bananes de Colombie qui arrivent maintenant. Oui. Hein. Et puis nous avions, encore qu'on n'en parle pas trop, des bananes aux Antilles françaises. Mais voilà, il y en a moins parce que la production est plus petite. On a beaucoup de bananes donc, d'Afrique, en particulier des bananes de Côte d'Ivoire. Rien ne vous oblige à acheter des bananes d'Équateur. Et vous pouvez, puisqu'il y a une obligation d'étiquetage dans tous les supermarchés, c'est la législation, vous pouvez dire, bon, les bananes équatoriennes, je n'en veux pas.
C'est comme les dattes israéliennes.
Voilà.
Il faut boycotter.
Quand vous allez faire les courses, faites comme Habib fait, ce que je fais aussi. Toujours regarder les étiquettes. Alors, c'est un geste politique minimaliste. Mais au moins, ça oblige à réfléchir. Et puis, quelquefois, on va avec un ami, on va avec un copain, et ils vous regardent les étiquettes. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il dit, oh, je fais un petit geste de boycott élémentaire. Ça me prend 5 secondes. Et en fait, c'est toujours ça de fait. C'est toujours ça de fait. Puis moi, ça me maintient en bonne santé mentale.
Ouais, c'est vrai.
Et oui, parce que je réfléchis avant d'agir. Tout bêtement. J'utilise ma rationalité. Alors, on peut faire autre chose, bien entendu, pour soutenir la cause palestinienne, mais c'est un tout petit geste dans le cas. Et donc, dernière chose sur l'Équateur. L'Équateur est tellement aligné que l'Équateur vient de céder les îles Galapagos, qui sont donc un trésor écologique mondial protégé par l'ONU, l'UNESCO, etc., pour y faire une base militaire des États-Unis. Alors, la protection de la nature par l'armée américaine, on peut discuter. Mais c'est pas la priorité au Pentagone. Je signale quand même que, dans la mesure où on est face à un monde où les dépenses militaires ont atteint, globalisé, hein, tout le monde fait des dépenses militaires en croissance, on atteint des chiffres qui n'ont jamais été atteints quand on fait l'addition de tout ce qui a été dépensé en 2024 par tous les pays du monde pour l'armement. Ça, c'est un signe, à la dire, c'est un mauvais signe d'état de santé de la planète. Tout le monde se surarme, se réarme. Alors, quelques-uns s'arment pour dire « je ne veux pas être attaqué par celui qui s'est plus armé que moi », c'est vrai. Mais donc, cette tendance est une tendance inquiétante, préoccupante, et effectivement, toutes les occasions de résister à cette tendance sont bonnes à prendre, en ayant bien conscience des enjeux. Parce que les enjeux sont très très faciles, et très faciles à mesurer, y compris dans l'industrie française, où vous pouvez avoir, imaginez que vous faisiez un petit héritage, et vous allez voir votre banquier, et il va vous dire, ah ben, il faut placer. Qu'est-ce que je fais? Vous n'avez pas de quoi placer un appartement, vous avez quelques dizaines de milliers d'euros. Et le banquier va vous dire, ah ben, en ce moment, c'est les valeurs militaires d'armement qui marchent. Alors, achetez chez Thalès, achetez chez Safran, le cours monte. Et voilà comme quoi l'argent va manquer chez d'autres, bien entendu, pour faire par exemple des HLM, il n'y aura pas d'argent, hein, mais il y aura de l'argent pour Thalès et pour Safran. C'est ça aussi, et on ne voit pas que ça rentre très très vite, ça s'imprègne dans la vie quotidienne de chaque ménage français. Dès l'instant où il y a un peu d'argent qui se joue, la bourse joue, et puis on va là où ça peut rapporter. Il faut que aussi nous soyons tous. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de cloi à aller voir leur banquier pour dire combien je mets. Hein, mais il y a aussi ça, et il y a quand même une partie de classe moyenne intermédiaire qui sont prises à ce jeu-là, qui est un jeu inquiétant, puisqu'elles sont prises au jeu de la guerre, sans vraiment penser, sans vraiment être vindicative, sans vraiment penser être belliciste, mais ça conduit petit à petit à ça, en disant bah, effectivement, là, ça paye. Safran, ça paye. Thalès, ça paye. Le fabricant de Charles Leclerc, ça paye, etc. etc. tête. Bon. C'est donc une idée que nous devons avoir en tête le plus souvent possible. Voilà, donc après ce tour de M. Noboa, donc, et puis le fait qu'on ajoute donc, Israël, les Émirats Arabes Unis, l'Italie, dirigée par Mme Meloni, néofasciste. Alors l'Espagne, c'est plus compliqué la situation espagnole, puisqu'en fait le Premier ministre espagnol, M. Sanchez, est l'expression d'un courant d'une gauche réformiste classique, mais en même temps, il a basculé du côté marocain, sioniste, etc., en prenant position contre le Sahara occidental et sa libération. Ça, c'est tout à fait important. Donc, en fait, ce positionnement d'une gauche un peu pas très, très méchante, pas très agressive, fait qu'il est passé un peu dans l'autre camp. C'est pour ça qu'on le retrouve là. Quant à Macron, bon, ben, pas de...
Il y a
pas
eu
de...
une grande réunion pour la Palestine en Espagne.
Tout à fait. Voilà. Alors, en même temps, il y a un courant dans l'opinion publique. Le soutien à la Palestine est fort. Et le soutien, y compris à la République arabe sahraoui démocratique, est fort aussi. Puisqu'il est historique et qu'en fait, une partie de l'opinion espagnole, au moins de l'opinion de gauche, a été choquée par le retournement de position du Premier ministre Pedro Sanchez sur la question du Sahara espagnol. Ça, c'est tout à fait important. Je rappelle que Mme Rachida Dati, ministre du gouvernement Majrou, s'est elle-même rendue au Sahara occidental pour montrer que la France était contre l'indépendance et contre le référendum promis par l'ONU et jamais organisé sur l'autodétermination, qui est un droit de la Charte des Nations Unies du Sahara occidental. C'est une bonne occasion de le rappeler. Voilà, pour ce qui est de ce positionnement de cette internationale noire nazie, donc on y met évidemment au cœur.
Je ne sais pas si tu es au courant qu'il y a eu une partie de l'armée israélienne qui était à Gaza. Maintenant, ils se retrouvent au Maroc pour faire des manœuvres militaires.
Exact, ouais, voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, ça souligne le lien extrêmement étroit entre le régime qu'on appelle le Maxen, donc le régime
du Palais Royal. C'est un des pays arabes.
Voilà. Alors.
Et moi, je suis désolé, franchement.
Alors, tu es désolé. On peut trahir les Arabes aussi. Ça peut arriver. Non, effectivement,
il n'y a pas que le Maroc, il y a les Émirats.
Mais voilà.
L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, toutes ces monarchies, tous ces. Voilà.
Ouais. Alors, on peut effectivement se désoler du fait que le monde arabe est entre les mains, pour sa très grande majorité, j'allais dire, Algérie mise à part, un peu Tunisie mise à part, le monde arabe, alors avec le cas du Soudan dont on a parlé dans une dernière émission, qui est encore incertain, le monde arabe est très largement entre les mains de monarques corrompus, sévères, brutaux dans leur régime, avec des systèmes, enfin, peine de mort, violation de tous les droits possibles et imaginables. C'est ça le monde arabe.
Il y a eu une transformation actuellement très, très du Moyen-Orient.
Oui. Ah ben oui.
Le Moyen-Orient. Avant, il y avait Jamal Abdel Nasser, il y avait Hafez al-Assad, il y avait Boumediene, il y avait Kadhafi. Les autres ne faisaient pas les poids devant ces gens-là. Maintenant,
que reste-t-il ?
Il ne reste plus rien. La Syrie était passée complètement.
Alors, un mot sur la Syrie, puisqu'on a appris, je ne sais pas si tu as vu, qu'en fait, deux dirigeants palestiniens qui vivaient en Syrie, Syrie était une base de repli pour les dirigeants des groupes palestiniens en lutte. Alors, il y en a un qui est un membre du djihad islamiste, enfin un dirigeant du djihad islamiste qui a été assassiné en Syrie, et un autre qui est membre du Front populaire de libération de la Palestine, qui a aussi été assassiné en Syrie. Ça veut dire que la protection qu'ils avaient avec le gouvernement précédent, il est perdu, et que maintenant, je pense, ils sont sur des listes noires établies.
Ils sont à l'extérieur, ils sont partis.
Non, ces deux-là sont morts.
Oui, ces deux-là sont morts, mais les autres
ont sauvé leur peau. Mais là, ils ont tué deux dirigeants. Ça, c'est la politique de M. Jolani, mais on l'a compris.
Le camp militaire où ils s'entraînaient, les Palestiniens, c'était Yarmouk.
Yarmouk.
Yarmouk, maintenant, c'est pris par Jolani.
Exactement. Voilà, évolution, donc côté syrien, dont on reparlera. Mais pour l'instant, pas de grandes nouvelles, si ce n'est qu'il se confirme qu'il y a un début de résistance de la population syrienne, surtout de ceux qui n'étaient pas brimés par le régime précédent et qui essayent de survivre. Alors, on sait aussi, dernière chose, qu'il y a un trafic de femmes vouées à l'esclavage sexuel qui est organisé dans les régions que le nouveau régime n'aime pas.
Et parmi les membres. D'Idleb, d'ailleurs.
Voilà, du côté d'Idleb. Du côté,
à Idleb, même. Voilà. Il est concentré à Idleb.
Voilà. Idleb est devenu le plus grand lupanar du Moyen-Orient pour le repos du guerrier islamiste. Bon, il faut le savoir. Ça c'est organisé par le gouvernement, le nouveau gouvernement de M. Al-Jolani. Bien. Je regarde là. Alors, on va un
par
peu changer.
Contre,
vas-y.
Renard, si tu peux me permettre, de tes auditrices m'a demandé de lire son texte.
Ah ben bien sûr.
Quand vers la fin, quoi, voilà. Pour
non,
le c'est... moment, tu continues.
Non, mais ça dépend sur quel thème c'est. Est-ce que c'est
sur la Syrie.
Ah ben non, allez-y, puisqu'on est dans le thème. Vas-y. Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Oui, bien sûr. Alors. On t'écoute. Donc c'est une auditrice qui a envoyé à Bib un texte qui va nous lire.
Voilà.
Ça doit être un témoignage sur ce qui se passe en Syrie.
Voilà. Alors, je vais le lire. Peut-être ça prendra 2-3 minutes, c'est tout. Indignation face au massacre en Syrie et à l'accueil du dirigeant syrien en France.
Voilà.
Je suis profondément bouleversé. Bon, je voudrais quand même dire, c'est Samoura Fayek. C'est elle qui a écrit ce texte. Samoura Fayek, donc, m'a demandé de le lire,
que
si c'est possible, à la radio.
Que tu connais.
Elle écoute la radio tout
d'accord.
le temps. Voilà. Je suis profondément bouleversé par les souffrances humaines infligées au peuple syrien depuis plus d'une décennie. Les massacres perpétrés en Syrie, notamment par le régime actuellement en place, ont fait des milliers de morts, des crimes ont été commis contre des civils, des emprisonnements arbitraires et des actes de torture ont été infligés, y compris à des familles de confession alaouite et chrétienne. Je suis autant plus indigné par la venue sur le sol français le 7 mai dernier du dirigeant syrien corrompu à la tête du gouvernement provisoire Ahmed Elchark dit Joulani, commandant djihadiste et rebelle syrien. Il ternit l'image de la France sur la scène internationale et met à mal les valeurs que nous sommes nombreux à défendre. L'accueil en France, c'est trahir toutes les notions de justice, d'unité et de droits humains que notre gouvernement prétend défendre. Notre silence serait une forme de complicité. Quelle indignation! La France a déroulé le tapis rouge à celui qui porte une part de responsabilité dans cette tragédie. Le recevoir comme un chef d'État respectable, lui faire des courbettes, c'est exactement ce qu'il manquait à notre diplomatie. Quel modèle de stabilité! Après tout, la France n'hésite pas à fermer les yeux lorsqu'il s'agit de préserver ses propres intérêts. Et on ose nous faire croire que notre pays se mobilise contre les auteurs des crimes commis en Syrie. Où sont les droits humains lorsque l'état des droits est bafoué? C'est une gifle aux victimes, une trahison de valeurs, un naufrage moral. C'est une douleur sans fin face à cette violence islamiste et à l'égard du peuple syrien qui endure depuis des années la brutalité, l'exil et la peur. Ce sont encore des innocents qui tombent, des familles qui pleurent, des enfants qui grandissent dans le chaos. C'est une insulte à toutes ces victimes et à ceux qui se battent encore pour une Syrie libre. Il ne reste parfois que le silence. Mais Je refuse de détourner le regard face à toutes les victimes de cette barbarie, face à ceux qui résistent et à ceux qui espèrent encore. Je pense à la Syrie, à l'ampleur de l'horreur, à ces vies fauchées, à ces visages effacés par la peur, à ces mêmes qui enterrent les enfants sans comprendre pourquoi. Je pense au peuple brisé, mais debout, à ceux qui prient en silence, qui espèrent encore, qui refusent de haïr malgré tout. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer ma peine et ma colère, malgré les épreuves et le silence du monde. Mon cœur demeure plus que jamais avec le peuple syrien. Voilà. On remercie Samoura Fayek.
Oui, pour ce témoignage.
Ouais, pour ce témoignage qui est très bien fait. Hein.
Merci, et ça me donne l'occasion de rebondir sur une dernière information sur la Syrie. Il faut savoir qu'il y avait en Syrie en poste un ambassadeur des États-Unis qui était en poste pendant la guerre civile, comme on dit, guerre civile, la guerre contre le djihadisme en Syrie, qui s'appelait M. Robert Ford.
Oui.
Ne pas confondre avec M. Peter Ford, qui porte le même nom, mais qui était lui ambassadeur de Grande-Bretagne. Donc M. Robert Ford, la semaine dernière, je crois, a fait une conférence et il a expliqué, écoutez bien, M. Robert Ford, ancien ambassadeur des États-Unis à Damas, a expliqué qu'il avait eu à un moment donné, quand il était à ce poste, la mission d'aller voir à Idlib, là où il séjournait, M. Al-Jolani, et de le transformer en un leader politique présentable. C'est-à-dire qu'on a pour la première fois, alors ça fait, à la limite, ça fait plusieurs décennies ou plusieurs années qu'on dit à ce micro, et heureusement on n'est pas le seul à le dire, qu'effectivement les djihadistes sont formés, sélectionnés par les États-Unis, mais là on a un aveu en vraie grandeur, c'est-à-dire l'ambassadeur qui va voir ce monsieur. Alors il dit, j'avais pas tellement envie de le voir parce qu'il avait beaucoup de sang sur les mains, l'armée américaine l'avait combattu en Irak, il avait tué beaucoup de monde, je connaissais ses méthodes, j'étais pas enchanté, mais... Un ordre est un ordre, je suis un fonctionnaire discipliné, je vais rencontrer M. Jolani à Idlib, là où il est, et j'exécute ma mission, qui est de le transformer en quelqu'un de mondialement, diplomatiquement présentable, d'en faire un homme politique. Et il peut dire, à la limite, mission accomplie, regardez le travail. Hein. M. Robert Ford va avoir une bonne note, je ne sais pas s'il y a des primes de productivité au département d'État, mais enfin, on est tout à fait dans ce cas-là. On m'a dit de fabriquer un leader à partir d'un djihadiste, j'ai réussi. Ce monsieur, alors, il est presque ironique, il dit, mais finalement, il se débrouille pas mal dans ce nouveau rôle, je n'ai pas raté ma formation. Hein. Je suis un bon enseignant pour fabriquer donc, des faux chefs d'État décidés par les États-Unis. Donc ils sont évidemment pas élus par les Syriens, il ne lui manque que ça, mais c'est quand même beaucoup.
Il combat les Palestiniens,
bien
il
sûr.
Est pro-israélien.
Il est, voilà.
Bon,
non, il est parfait.
Plus. C'est un sioniste.
Il est parfait dans le rôle.
Hein. Il est sioniste.
Alors, bon,
joue
coup de chapeau à M. Robert Ford, vous avez fait un très très bon travail pour l'avancée de la cause impérialiste et des gouvernements néo-nazis que je citais tout à l'heure, au rang desquels, effectivement, le nouveau gouvernement syrien peut être rangé sans souci. Bien, c'était bien qu'on ait cette occasion-là d'en parler. Et puis on va parler d'un personnage qui lui aussi a toute une histoire, mais qui nous amène à parler d'un autre pays qui s'appelle l'Afrique du Sud.
Ouais.
Pourquoi parler de l'Afrique du Sud ? Parce que, vous l'avez sans doute vu sur vos écrans, le président actuel de l'Afrique du Sud, M. Ramaphosa, a été reçu par Donald Trump. Alors je m'arrête sur l'événement parce que ça a été, comme font toutes les réceptions qui se font dans le fameux bureau de la Maison-Blanche, ça a été l'occasion d'une mise en scène théâtrale extrêmement poussée à l'encontre de ce pauvre monsieur Ramaphosa. Alors je dis pauvre monsieur Ramaphosa, je reviendrai un peu dessus parce que c'est quand même un milliardaire, il n'a pas un passé tout à fait clair. Enfin là il a été pris dans une embuscade, je reprends le terme dans un journal local d'Afrique du Sud qui a dit le président a été pris, est tombé dans une embuscade dans le bureau ovale. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors voilà, je décris le contenu de l'embuscade parce que vous ne l'avez peut-être pas tous vu. Donc ils sont installés dans la position Trump-Zelensky ou la position, vous la connaissez, chacun dans son fauteuil. Et d'entrée de jeu, Trump lui rentre dedans, il n'y a pas d'autre expression, en disant « il faut arrêter le génocide des Blancs d'Afrique du Sud ». Alors là, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais de quoi il s'agit ? De quoi il s'agit ? Alors en fait, le coup est bien monté, puisque à l'appui du propos de Trump, la cellule média a bien travaillé et elle a sorti donc des extraits de vidéos d'un militant, disons, d'un militant africain, sud-africain noir, qui est un peu le chasseur, enfin, qui veut du mal aux anciens colons bourgs. Donc, vous savez que les bourgs, B-O-E-R, c'est les anciens colons néerlandais qui ont été les premiers occupants donc, de la terre sud-africaine et qui ont été ensuite rattrapés, complétés par les Britanniques qui sont arrivés avec une autre méthode. Donc, mais la colonisation terrienne de l'Afrique du Sud a été le fait de cette colonisation néerlandaise, dont certains portaient d'ailleurs des noms français, puisqu'ils étaient quelquefois les descendants de protestants français ayant fui la France au moment de la Révolution, la révocation de l'édit de Nantes. C'est la petite histoire. Bon, donc il y a en Afrique du Sud effectivement un monsieur qui est militant, qui a un petit groupe autour de lui, qui dit que ce qui reste de cette colonisation bourg, donc de ces anciens néerlandais, ce sont encore de très très grands propriétaires qui n'ont pas changé leur rapport avec leur personnel africain qui travaille dans les champs. Ils sont restés ce qu'ils sont profondément, c'est leur vie, ils étaient colons avant, ils restent colons dans leur tête, et le gouvernement sud-africain, même celui de Mandela et ceux qui l'ont suivi, ne les ont pas maltraités en aucune façon. Ils ont continué à faire. Simplement, ils sont devenus un peu plus insupportables à la population africaine qui les voit continuer comme si ne s'était rien passé, comme si l'apartheid n'était pas fini.
C'est vrai.
Et alors, ce changement de l'opinion autour d'eux, qui n'a pas du tout été lancé par le gouvernement sud-africain lui-même, fait que finalement, ils disent « on est mal vu, on est mal... » Alors, ils sont quelques-uns, quelques dizaines, pas plus. Hein, c'est là... Ils sont arrivés à un point où 45 ou 46 d'entre eux ont émigré ces dernières semaines aux États-Unis. Et ils ont été accueillis comme des réfugiés politiques, hein, des réfugiés, souffrant dans leur pays où il ne leur est rien arrivé du tout. On leur a pris 0 hectare de terre, on leur a rien pris du tout, mais ils ont été accueillis aux États-Unis comme s'ils avaient été jetés dehors par une espèce de guerre de libération nationale, l'arme au poing. C'est pas du tout ça. Et c'est à partir de ce fait minuscule, 46 anciens colons néerlandais, que Trump monte son traquenard pour Ramaphosa. Et donc, il rentre, j'allais dire, c'est presque un combat de boxe. Au premier round, il le met à terre, il en reste plus de ce pauvre Ramaphosa. Alors, il va pas mal réagir, il va dire « non, mais quand même ». Alors d'abord, il dit, quand il voit les vidéos, parce que dès que Trump a fini l'attaque, « vous êtes un génocidaire de blanc », il reprend son souffle, il vient des vidéos préparées, et Ramaphosa dit « mais j'ai jamais vu ces vidéos, vous les avez prises où ?» Alors il sème un certain doute, qu'est-ce que c'est que ces images, qui a fait ça? Alors apparemment, l'excité sud-africain qui mène ses campagnes doit sévir quelque part ici-là, il a été photographié, et c'est lui qu'on a sélectionné pour montrer que le génocide blanc était en cours. Enfin, il faut avoir quand même la vue très très courte et la mémoire très 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 courte pour Trump, qu'on puisse dire « génocide de blanc ». Je rappelle que Mandela a pris soin avec ce qu'on a appelé les commissions de la réconciliation, avec l'intervention de Desmond Tutu, etc., d'éviter qu'il y ait des vengeances. Il n'y a pas eu de vengeance, il n'y a pas eu de règlement de compte. Hein. Et donc, proposer, dire il y a un génocide blanc, c'est une horreur, mais au fond, je veux dire, c'est une horreur. Trump dit ce qu'on lui dit de dire, Trump le dit avec le vocabulaire minimaliste qui est le sien. La pauvreté, peut-être même du raisonnement, la pauvreté du discours, elle est manifeste dans tout ce qu'il dit. Et donc là, on lui avait dit « génocide blanc », ça fait joli, ça fait applaudir. Et puis comme ça, même sur le plan de la politique intérieure aux États-Unis, ça dit finalement, vous voyez, quand les Blancs sont maltraités, Trump les défend. Ce qui peut s'appliquer aussi bien en Floride, en Louisiane, en Californie, etc. Hein, vous voyez, donc double écho international et puis écho national en disant « moi je suis du côté des Blancs et je défends les Blancs contre ces Noirs hein. ».
C'est quitte du racisme.
quitte à assassiner un Floyd George de temps en temps. Vous savez toute cette histoire, je n'insiste pas là-dessus. Mais enfin voilà, double avantage de cette position. Et puis ensuite, alors on apprend que une fois que ce pauvre Ramaphosa a subi cet assaut, il y a quand même eu un repas. Il y a quand même eu un repas de 2 heures, alors ça n'a pas été filmé, mais Ramaphosa a fait ensuite une longue conférence de presse, je crois qu'il fait 1h40, que j'ai vue presque dans son intégralité. Et là, j'ai été très, non pas très choqué, mais très attristé par le fait qu'en fait, il était de toute façon venu pour capituler. C'est-à-dire qu'il dit « Je suis venu pour expliquer au président des États-Unis que les intérêts des entreprises américaines devaient s'étendre, qu'il fallait que vous investissiez beaucoup plus dans notre pays. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de dollars, nous avons besoin de technologie, nous avons besoin d'intelligence artificielle. » Il est venu, j'allais dire, expression très ancienne, à Canossa. C'est-à-dire, il dit « Je viens, en fait, je fais acte d'allégeance, vous êtes plus fort que nous. » Alors, on peut s'étonner, alors moi je m'étonne quand même, parce qu'il vient dire ça, et il le dit longuement, lui, la conférence de presse dure 1h40. C'est-à-dire donc il développe beaucoup, j'ai besoin de tout, venez, investissez, etc. Ce qui veut dire, et ça pose question, et ça répond à ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire que, je rappelle que l'Afrique du Sud est membre fondateur des BRICS, enfin pas tout à fait fondateur, c'est 4+1, c'était le 5e. Bon, ouais. Mais ce monsieur est en train de se coucher au pied du maître en disant « Viens chez moi, j'ai besoin de toi, je suis avec toi, je suis à la limite. » Il ne dit pas « Je suis dans ton camp. » Mais en fait, quand on sait qu'il est donc membre fondateur des BRICS et qu'il vient dire ça au président des États-Unis, on se dit qu'il y a quand même un trouble quelque part dans son analyse de la situation. Le trouble est tel que, dans cette même conférence de presse, M. Ramaphosa va dire « Mais moi, je pense que je vais devoir quitter le pouvoir. » Donc il sent bien qu'il a fait un acte qui est une espèce de trahison de la politique de l'ANC, de trahison de tous les gens de l'ANC et du Parti communiste sud-africain qui sont morts. Et il dit probablement ce que j'ai fait là, bon, j'ai été manipulé ou je suis content de l'avoir fait parce que finalement j'ai eu aussi avec M. Trump un discours de milliardaire à milliardaire. Un milliardaire blanc qui parle avec un milliardaire noir. Alors, il y en a un peu plus de milliards que l'autre. Mais il y a aussi ça. Donc, c'est un rapport de classe sociale. C'est plus un rapport de deux chefs d'État. C'est un rapport de classe sociale. Je parle entre milliardaires. Et en tant que milliardaire, je défends les intérêts des milliardaires. Et tant pis pour les 60 millions de Sud-Africains. Et tant pis pour l'ANC. Ça amène à mieux regarder qui est ce monsieur Ramaphosa. Outre le fait qu'il est... Il est devenu, ce qui n'était pas au moment de la lutte de libération nationale, il est devenu milliardaire. Il est devenu milliardaire à travers un curieux chemin qui l'a conduit d'abord à être président du syndicat, de la centrale syndicale sud-africaine, qui s'appelle le COSATU, qui était surtout articulé sur le syndicalisme des mineurs, puisqu'on sait qu'une bonne partie de la richesse sud-africaine, une richesse du sous-sol, or, diamant, tout ça est connu, charbon aussi. Et donc il a été le dirigeant historique du syndicat créé à la fin de l'apartheid. Il ne s'est pas montré, c'est le moins qu'on puisse dire, et je suis gentil, j'ai un petit sourire là-dessus, un militant irréprochable, puisqu'on lui doit quand même une des plus féroces répressions d'une grève minière dans une mine de platine, où il a donné l'ordre à l'armée de tirer, et qui a fait 50 ou 60 morts chez les mineurs. Et c'est le président du syndicat qui avait dit à l'armée « Allez-y ». Comme ça, la grève s'arrêtera. Bon. Donc ça fait aussi partie du personnage de M. Ramaphosa. Et puis, donc, il est devenu leader de l'ANC, donc président de l'ANC, après le départ de M. Jacob Zuma. Et il est aujourd'hui donc président de l'Afrique du Sud, qui a accueilli, je le rappelle, il y a 2 ans, donc en 2023, le sommet des BRICS, qui a été le premier sommet de l'élargissement. Vous vous souvenez de ça, où sont rentrés les nouveaux. La position de M. Ramaphosa aujourd'hui en Afrique du Sud est fragile. D'ailleurs, s'il dit qu'il va peut-être, il devrait laisser le pouvoir, c'est que effectivement la réussite, et là je suis méchant en mettant le mot réussite, sa réussite politique, c'est qu'il a réussi avec son attitude, ses façons de travailler et tout ce qu'il a fait de discutable à faire perdre à l'ANC la majorité politique que l'ANC a fait depuis le début de la libération nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANC n'est plus majoritaire au Parlement, c'est-à-dire a perdu la position forte que l'ANC avait depuis Mandela. Ça, merci M. Ramaphosa. Mais j'allais dire, à la limite, on est tout à fait dans la question d'un rapport de classe. Quand vous êtes milliardaire, que vous soyez issu d'un mouvement de libération nationale ou pas, etc., jaune, vert ou blanc, musulman, chrétien ou n'importe quoi, sachant que votre position de classe prédomine sur votre analyse politique. Et donc c'est tout à fait ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense que ses jours à la, lui-même compte ses jours à la tête de l'Afrique du Sud. Et il a réussi aussi à briser une alliance qui était constitutive et qui avait pesé extrêmement lourd dans la lutte de libération nationale. C'est-à-dire que c'est depuis la dernière élection législative et donc depuis la politique de M. Ramaphosa que le Parti communiste sud-africain, qui a porté un poids très très lourd dans la lutte de libération nationale, en sang versé, en travail militant, etc., le Parti communiste sud-africain a pour la première fois depuis les années 90 dit qu'il ne s'associait plus avec l'ANC, qu'il ne pouvait pas partager la politique de l'ANC. Donc le bilan politique de M. Ramaphosa, il n'est pas brillant. Et au fond, ce qui lui est arrivé à la Maison-Blanche, c'était une bonne leçon, c'est-à-dire qu'à la Maison-Blanche et dans l'entourage de Trump, on a dit « mais ce monsieur, en fait, nous le tenons, il est dans nos mains, il est sur nos positions ». Et donc, on va le ramener dans le giron états-unien, dans le giron des milliardaires. Et
on va les sionistes.
Voilà, et dans le giron sioniste. Hein, je rappelle aussi, effectivement, les relations du gouvernement de l'apartheid avec le gouvernement sioniste, qui était extrêmement étroite. Tout ça fait qu'il finit là où il devait, en fait, finir. Ouais. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'effectivement, il y ait à la tête de l'ANC pour le remplacer, quelqu'un d'un peu plus ferme sur une politique d'indépendance nationale, de respect des droits du peuple, et puis de liberté de manœuvre, enfin, remplir les engagements par rapport aux BRICS, ce qui est très très important, et donc ne pas fermer la porte à d'autres alliés, à d'autres appuis, à d'autres soutiens possibles qui sont connus dans les BRICS, hein, l'alliance russe, l'alliance chinoise, tout ça, l'alliance indienne y compris, tout ça revient sur le tapis. On a une espèce de chapitres qui se ferment dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Le chapitre de la lutte d'indépendance, il se termine là. L'Afrique du Sud est entre deux eaux, j'allais dire, dans son destin n'est pas sûr. Elle est inquiète parce que tout en étant aujourd'hui la première puissance industrielle du continent, il n'y a pas l'ombre d'un doute, elle est quand même de plus en plus menacée par deux gros compétiteurs qui sont l'un le Nigeria, donc qui est écrasant ne serait-ce que par sa puissance démographique, sa puissance financière, par l'Égypte et maintenant par l'Éthiopie. On a là des pays qui ont plus de 100 millions d'habitants, alors que l'Afrique du Sud est relativement peu peuplée, la natalité n'y est pas forte. Et donc, effectivement, le leadership économique de l'Afrique du Sud sur le reste de l'Afrique est en train de s'effacer petit à petit au profit d'autres puissances strictement africaines qui n'ont pas le même passé. On y reviendra au fil des temps, mais je pense que c'est une évolution qui va aller relativement vite, y compris en suivant de près l'évolution du Congo voisin, avec son immensité territoriale, son poids démographique, son immense richesse minière. On a là tout un schéma de recomposition d'une Afrique où l'Afrique du Sud ne pourra pas parler au nom de tous les autres. C'est tout à fait clair. Alors, comme on était sur l'Afrique du Sud, on va faire une petite pause. On va écouter une chanson qui est chantée par un groupe sud-africain qui s'appelle « La marche vers la liberté ». On ne pouvait pas mieux faire.
Ouais.
Ça s'appelle « Lady Speak Black Mambo Zoo ».
Wagumyama emhlabeni kahlele umnyama bo
Wagumyama kahlele umnyama
Wagumyama emhlabeni madu
Wagumyama kahlele umnyama Goodie boy, carry on Goodie boy, carry on
Womhlophe na ngekahlele umnyama naye
Womhlophuma ekahlele umnyama
ekahlele umnyama
womhlophe
wenzile umuntu
ekahlele umnyama well done well done you did a good job you did a good job properly performed well done well done carry on
womhlophe nangoke sekahlele umhlophe
womhlophuma ekahlele umhlophe
womhlophe madu
Don't do it again, don't do it again. We came a long way to take over. Do you understand that? Do you understand that?
Sage,
sage, sagu bona, sagu beleta.
Mama bo.
Sage, sagu twalo, sisi wema. Sage, sagu bona, sagu beleta. Sage, sagu twalo, sisi wema. Sage, sagu bona, sagu
beleta.
Sage, sagu twalo, sisi wema. Sage, sagu bona, sagu beleta. Sage, sagu twalo, sisi wema. Step by step. There comes a day we were all praying for.
Oh, yes.
Early in the morning, it was early on Friday morning, Norway in Oslo, 1993.
When two men
all the way from South Africa, Mandela, De Klerk, accepted their Nobel Peace Prize. Congratulations, South Africa. Congratulations, South Africa.
At last.
You reached democratic election. Long way,
long way,
long way,
long walk,
long walk to freedom.
Long way,
long way, long way,
long walk,
long walk to freedom. Long way. Long way,
yeah, yeah,
long walk to freedom.
Yeah, yeah, yeah.
Long way,
long way,
long way, long walk to freedom.
Let us walk.
Long way,
walk.
Long way,
together.
Long walk to freedom.
Let us walk.
Long way
and work.
Long way
together.
Long walk to freedom.
Let us walk.
Long way
and work.
Long way
together.
Long walk to freedom.
Congratulations, South Africa.
Long way.
Long way.
Long way.
Long way.
Long walk to freedom.
Aye. Umnandi.
C'est donc Lady Smith Mac Bambazou qui a long, long Way to Freedom, longue marche vers la liberté. Un très beau chant. Ouais. Et ça me donne l'occasion de citer les propos du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, puisqu'il s'est tenu à Moscou une journée de l'Afrique ces derniers jours. Et il dit un certain nombre de choses. La Russie continuera d'aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme, en renforçant leur capacité de défense et en garantissant la sécurité alimentaire et énergétique. La journée de l'Afrique est une preuve de la victoire des peuples africains dans la lutte pour l'indépendance et la liberté. Le continent africain est l'un des piliers d'un ordre mondial multipolaire. La Russie et ses amis africains veulent redonner à leurs relations un nouveau contenu conforme aux réalités du XXIe siècle. La deuxième conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique aura lieu en Afrique. Et il cite ensuite les échanges économiques et il dit « L'adoption par l'ONU de la résolution sur l'éradication du colonialisme sous toutes ses formes contribuera à la lutte contre les pratiques néocoloniales que les pays occidentaux continuent d'utiliser. » Alors ça, on va suivre ça de très près, on vous en reparlera quand ce projet de résolution passera devant l'Assemblée générale des Nations Unies. On verra qui vote et comment. Et dernier point sur lequel je vais m'arrêter un peu plus, la Russie apprécie et se souvient des centaines de milliers d'Africains qui ont combattu dans la coalition anti-hitlérienne, rapprochant ainsi la victoire en 1945. Alors vous voyez très bien à qui il fait allusion. Et en particulier, ça me donne l'occasion de vous parler d'un événement qui s'est passé dans la région lyonnaise dans les derniers jours de la République française, troisième du nom. Alors je rappelle les événements, donc la bataille de France, c'est-à-dire la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne nazie en septembre 1939. En pratique, la guerre ne commence pas, on a ce qu'on appelle la drôle de guerre, et puis tout d'un coup, en mai 40, déboule en faisant un tour en contournant la ligne Maginot des Boules par les Pays-Bas et la Belgique, une armée allemande extrêmement bien préparée, très armée et tout, qui va ne faire quasiment qu'une bouchée en quatre semaines de l'armée française. Et donc l'armée allemande va progresser très très vite dans toutes les directions. Elle va occuper une bonne partie du territoire. Et l'événement dont je vais vous parler se situe dans la banlieue lyonnaise. C'est-à-dire que quand l'armée allemande s'approche de Lyon, elle descend vers le sud et elle est partie pour conquérir la totalité du territoire de la République. Ça s'arrêtera que le jour de la signation de l'armistice, le 22 juin 1940. Mais elle a avancé très vite. Et il y a à Lyon un certain nombre de personnages importants dans l'histoire de la République française qui vont faire un geste qui s'est fait à Paris dans les jours précédents, c'est-à-dire ils vont déclarer Lyon ville ouverte. Alors qu'est-ce que ça veut dire une grande ville ouverte dans le cadre d'un conflit guerrier ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat à cet endroit-là, la ville sera épargnée, les armées s'affronteront ailleurs, à la campagne, etc., ou dans les villages, mais pas là. Les personnages qui disent « Lyon doit devenir une ville ouverte » sont très très importants. Il s'agit, alors pour ceux qui ont un peu d'âge, il s'agit du maire de Lyon, mais qui est à l'époque président du Parlement, M. Édouard Herriot. Il s'agit du cardinal, le primat de Gaulle, le premier cardinal en rang hiérarchique de l'Église catholique française, qui s'appelle le cardinal Gerlier, qui est lyonnais. Avec des alors c'est des personnages de ce gabarit-là, c'est-à-dire le président du Parlement français qui est encore... Alors la Chambre n'est pas dissoute, Pétain n'a pas encore pris tout le pouvoir, donc Herriot est encore ce jour-là, il est président du Parlement français. De la même façon que le cardinal Gerlier, lui, est primat de Gaulle, c'est-à-dire c'est le premier parmi les cardinaux existants sur le sol français, reconnu comme tel par le Vatican. Et c'est ces deux personnages qui disent « Lyon doit être une ville ouverte ». Et donc, du coup, l'ordre va dans l'armée française qui continue à se battre, parce qu'il reste, et l'ordre ne va pas partout. C'est-à-dire que le temps que ça se transmette, cette décision, il y a des troupes qui ne l'ont pas reçue ou à qui on ne leur a pas communiqué. Tout. Alors, il se trouve que ces troupes, c'est un régiment de tirailleurs sénégalais qui est installé le long de la Saône, un peu au nord de Lyon, dans une petite commune qui s'appelle Chasselet, et qui, lui, continue le combat. Et quand les Allemands arrivent, le bataillon de tirailleurs sénégalais continue à se battre. Alors ils sont inférieurs parce qu'il y a en face des blindés, etc. C'est un bataillon de tirailleurs à pied. Bon, ils sont inférieurs et donc à un moment donné, ils lèvent les bras en disant « on se rend hein. ». Les Allemands les font aligner le long d'une haie au fond d'un champ. Ils font coucher les quelques Français qui étaient là au sol et ils passent tout le reste au fusil mitrailleur. 190 morts en quelques secondes. 190 Sénégalais. Parce que l'ordre n'est pas arrivé jusqu'à eux. Bon. C'était ça la façon dont les... Alors, ils ont face à eux une division SS, supérieurement armée, supérieurement équipée, qui se trouvant face à 200 Africains, à quelques-uns près, va dire « Les Africains, ce sont des sous-hommes, et donc c'est tout ce qu'on peut en faire. »
Ils avaient les masses 36.
Oui, donc arrosage au fusil mitrailleur, et ensuite on fait passer les blindés sur les corps pour voir si jamais il y en a un qui a survécu à l'arrosage au pistolet mitrailleur. Voilà. Et il y a aujourd'hui dans cette commune un cimetière africain, un superbe cimetière, un cimetière militaire donc, en la mémoire de ces soldats sénégalais qui ont donné leur sang pour la France. Et qui ont été donc massacrés dans ces conditions. Pas de chance, hein, puisque l'ordre n'est pas arrivé chez eux de cesser le combat. Je pense que même si l'ordre était arrivé, je pense que la division nazie les aurait pourchassés quand même, parce qu'ils avaient envie, de liquider des Noirs. Je rappelle l'humiliation des Hitlériens, parce que c'est un moment de l'histoire, quand en juillet 1936, le sprinter américain Jesse Owens gagne le 100 mètres, le saut en longueur, puis le 4x100, dans les tribunes nazies, on n'en peut plus de honte, mais comme c'est les Jeux Olympiques, on n'est pas fâché officiellement avec les États-Unis, ils ont gagné. Mais ça n'était jamais passé. Et là, on avait une espèce de vengeance a posteriori de ce moment d'humiliation, un noir supérieur à un blanc, ce qui est un raisonnement qui est tout à fait inacceptable à un nazi. Même si c'est pour une course de 100 mètres. Bon. On n'a pas toujours beaucoup avancé en cette matière. Je rappelle quand même je rappelle quand même que au moment des Jeux olympiques de Mexico en 68, les deux coureurs noirs des États-Unis qui gagnent la course, je crois que c'est le 200 qu'ils ont gagné, montent sur l'estrade au moment où on leur a donné leur médaille et lèvent le poing. Lèvent le poing pour montrer qu'ils sont solidaires de la lutte des noirs sur le territoire, l'émancipation des noirs aux États-Unis. Je rappelle aussi que ces deux sprinteurs ont eu leur carrière totalement brisée à la suite de ce geste.
C'était terminé. C'est comme Mohamed Ali,
qui
a refusé d'aller au Vietnam.
Voilà. Donc c'est toujours utile de rappeler que c'est en ça que le nazisme est condamnable et condamné, je l'espère, parce qu'il introduit une différence entre les gens en fonction de critères purement physiques qui n'ont rien de justifié. Les hommes se valent tous, quelle que soit leur couleur. Alors le critère de la couleur, en plus, c'est un des plus bêtes qui soit, parce que, évidemment, personne ne confond un noir avec un blanc, mais il y a des tas d'autres différences. On sait qu'il y a des différences génétiques. L'espèce humaine est une espèce quand même assez compliquée. J'allais dire, le respect de l'humanité, c'est un peu comme le respect de la biodiversité. Prends cette image connue en biologie, parce que c'est bien ça. L'espèce humaine est très diverse. Et vous savez qu'alors, il y a des gens qui sont amateurs des tests d'ADN qu'on envoie par correspondance. Et puis, il y a des gens qui se retrouvent avec de l'ADN mongol, un petit bout, puis un bout d'ADN du Zimbabwe, etc. Parce qu'en fait, voilà, l'espèce humaine, elle est très diverse, elle est très variée. Il y a une vraie biodiversité. Alors, réduire ça à un affrontement entre noir et blanc ou entre jaune et blanc, c'est une stupidité achevée. Ça montre le petit niveau. Et au fond, je suis un peu désolé, mais ce n'est pas notre problème, c'est le problème des électeurs américains. De choisir des présidents de cet acabit, ce n'est pas un bon signe. Alors, je pense qu'on pourra à un moment donné, d'ailleurs, consacrer une émission à cette crise de la démocratie aux États-Unis qui est en train de s'approfondir. Il faut savoir qu'elle a déjà des signes évidents en termes, par exemple, en termes de mortalité infantile, qui est un signe qui ne trompe guère. Les États-Unis sont très très mal classés dans le monde. On ne respecte pas l'enfant qui vient de naître. Alors je pense qu'effectivement, des milieux où on le respecte et pas d'autres, hein, mais cette société est malade, elle est malade de l'argent. Et puisqu'on en était à parler des maladies, je veux vous signaler, parce que ça n'a pas été beaucoup dit, que M. Trump a organisé dans un golf, alors pas à Mar del Lago en Floride, mais dans un golf qu'il a, qui s'appelle le Golf Trump en Virginie, c'est donc tout à côté de Washington, il a organisé la mise en vente de crypto-monnaie Trump. Il y a une monnaie qui s'appelle le Trump Crypto. Il a organisé la vente. Et il a organisé la vente et il dit « je vends à qui offre le plus ». Et donc tout ça. Alors il y a un monsieur qui est arrivé qui a mis $1 million sur la table et on lui a donné un paquet de crypto-monnaies. Il y en a un autre qui a mis $500 000 sur la table, on lui a donné un paquet de crypto-monnaies. C'est ça la façon, la vie quotidienne de Trump et de sa famille et de ses fils et de ses filles et de son gendre Jared Kushner, etc. C'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est-à-dire faire argent de tout. Et il l'a dit dans son premier mandat et je pense qu'il le pense profondément. Je veux beaucoup gagner d'argent pendant ma présidence. Je veux beaucoup gagner d'argent. Alors après, ils vous disent les intérêts des États-Unis et tout. Oui, alors les intérêts des États-Unis, éventuellement. Mais moi, je veux me remplir les poches. Je veux finir là encore plus riche à la fin du mandat qu'au début du mandat. Alors effectivement, avec un personnage pareil au centre de la politique internationale, les choses sont relativement compliquées. Ceci étant, il a affaire à des gens qu'il a affaire de l'autre côté, enfin d'autre côté, des gens qui l'ont à peu près compris et cerné. Et ça va m'amener à vous parler un petit peu de ce qui se passe sur le front, disons, russo-ukrainien. Parce qu'il se passe des choses importantes. D'une part, bon, la négociation qui avait commencé par la fameuse réunion de vendredi, il y a une dizaine de jours, là, à Istanbul, n'a pas eu de suite. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas réunis à nouveau. Mais par contre, le seul accord concret qui était sorti de cette réunion, c'était un accord sur l'échange de 1000 prisonniers des deux côtés. Or, cet accord, au moment où je vous parle, il est pratiquement respecté et ça a bien eu lieu. C'est-à-dire, à quelques unités près, ça a eu lieu. Et pour la diplomatie russe, Lavrov l'a dit lui-même, pour moi, ça, on s'est mis d'accord là-dessus, ils le tiennent, c'est bon signe pour la suite. C'est bon signe pour la suite, pas plus. Hein. Ça, ils ont signé ça, ils l'ont respecté, c'est tant mieux. Par contre, il a rappelé, comme Poutine l'avait fait à d'autres occasions, que quand il s'agit de respecter un cessez-le-feu, là alors, ça ne marche pas du tout, il ne respecte rien, et donc il n'y aura plus de cessez-le-feu, puisque de toute façon, il ne respecte pas les cessez-le-feu. Il n'y a d'ailleurs pas de cessez-le-feu. Et il y a tellement peu de cessez-le-feu que ces derniers jours en particulier, les attaques ukrainiennes contre le territoire russe, contre Moscou même, ont été les plus massives qui soient, par la voie aérienne, je précise, donc drones, missiles, de toutes sortes. Ouais. En riposte, évidemment, les ripostes russes ont été de la même intensité, voire plus, donc en nombre de drones, de missiles et tout, sur toute une série d'installations militaires ukrainiennes, dans la banlieue de Kiev, sur des installations où on fabrique des drones, sur des installations où il y a des stockages de munitions, etc. Bon. Donc la tension militaire sous forme de cet échange par voie aérienne de missiles est extrêmement forte. En sachant que les capacités, les stocks, disons plutôt, d'armement sont plutôt favorables à la Russie que de l'autre côté. Et c'est pour ça que les Occidentaux, et en particulier les Européens, voulaient un cessez-le-feu pour pouvoir regarder les stocks ukrainiens. Parce qu'évidemment, la Russie n'a pas ce problème, puisqu'elle a les usines sur place, et il suffit d'apporter le matériel. Bon. Dans le cas des Européens, c'est un peu plus compliqué. D'abord, il faut avoir le matériel, et après, il faut le transporter. Alors ça peut passer dans le cas de la France par la Roumanie, on en a parlé la semaine dernière, mais il faut encore que l'usine ait produit quelque chose, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors ça, c'est la donnée au niveau des combats, donc les combats aériens sont les plus intenses qu'ils ont été depuis quasiment le début, parce que la mise en œuvre, quand on est à des envois de 700-800 drones dans la journée, on atteint des niveaux qui n'ont jamais été atteints, qui n'ont jamais été atteints là en Ukraine, qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire militaire du monde. Hein, parce qu'on a affaire à une guerre nouvelle, la guerre des drones, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui n'avait pas commencé vraiment avant février 2022. Donc on est en train d'en voir les développements et l'intensité possible. Et effectivement, avantage à la Russie, puisqu'elle a des usines qui tournent à plein et qui sont à proximité. Ça a débouché sur un autre aspect, alors sur lequel il n'y a pas encore eu de grande clarification, c'est que ces drones ont visé probablement le président russe lui-même. Alors le président russe est venu d'ailleurs dans un hélicoptère visiter la zone de Koursk où donc l'armée ukrainienne avait voulu rentrer sur le territoire russe. Et effectivement là, c'est pas un propos du Kremlin, c'est un propos donc du militaire qui commande la zone aérienne donc de course, qui a dit qu'effectivement, au moment où l'hélicoptère présidentiel et sa suite étaient en train de survoler la zone de course, qu'effectivement, l'attaque ukrainienne par la voie aérienne a été extrêmement forte. Donc, est-ce que Poutine était visé? Il n'y a pas de propos officiel ni du côté ukrainien, ni du côté officiel, ni du Kremlin, ni du ministère de la Défense russe. On ne peut pas l'exclure. Alors je m'arrête là-dessus parce qu'on ne peut pas l'exclure. Alors ça veut dire que si jamais, et ça fait partie, je pense, d'une pratique nazie, mais ça s'est jamais passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'armée rouge, fût-ce au prix de centaines de milliers de morts pour son marais de Berlin, n'a essayé de liquider Hitler et son entourage. Ils ont capitulé. C'est pas possible. Hitler s'est suicidé. Les autres ont capitulé. Bon. Si les néo-nazis ukrainiens en sont à dire « on va tuer Poutine », on est dans un autre type de conflit et on est face à une espèce de béance dans l'histoire, c'est-à-dire que assassiner un chef d'État en état de guerre, c'est s'exposer à une riposte extrêmement violente de l'État qui est la victime de cette action. Alors, on ne le souhaite pas, évidemment, il faut faire attention à ça.
Mais surtout la puissance russe.
Voilà. Alors ceux qui ont pu imaginer, parce que c'est possible qu'il y ait dans l'entourage de Zelensky, dans les généraux commandant l'armée ukrainienne, il y ait des gens qui aient cette idée-là. Il est même possible que cette idée folle leur ait été suggérée par des otaniens quelconques qui sont sur place. Donc, comme ça, ça nous enlèverait un souci, on n'aurait personne en face de nous. Alors je pense que là, ce serait une erreur dramatique parce que réfléchissez bien, je le dis parce que ça fait des années qu'on suit cette évolution, qu'on suit les propos des uns et des autres, l'attitude dans différents moments de tension et tout. Vous n'avez pas avec Poutine un va-t-en-guerre fou. Vous avez un monsieur qui prend son temps, qui calcule les risques, qui n'a jamais appelé à tuer quelqu'un. Donc, si vous éliminez M. Poutine, vous pouvez avoir quelqu'un de beaucoup plus radical que lui. Et là, vous jouez un jeu extrêmement dangereux parce que Poutine a accepté l'intervention diplomatique de Trump, il a accepté de discuter, de lui parler au téléphone, etc. Il n'a pas accepté tout ce que l'autre voulait lui proposer, il a accepté de discuter. Bon. Si vous mettez à la place quelqu'un qui discute de rien et qui dit « moi, de toute façon, je suis le mieux armé, j'ai une avance technologique militaire évidente et je vais la manifester quoi qu'il arrive », vous rentrez dans un autre paysage international que, personnellement, on n'a pas du tout à souhaiter. C'est-à-dire que toutes les énergies militaires sont débridées. Il peut arriver n'importe quoi, à peu près. Alors, dans le n'importe quoi, il y a l'arme atomique, il y a l'arme biologique, il y a tout ce qu'on veut.
Il y a beaucoup
de choix dans l'horreur. Je souhaite qu'on n'en arrive pas là, et vous avez compris que nous souhaitions tous à Kovaguer que ce ne soit pas le cas. Bon. Voilà ce que je voulais dire un peu sur la situation donc tendue de ce côté-là. La Russie continue à tenir diplomatiquement des positions, en disant « ben voilà, moi c'est clair que je veux qu'il y ait un pays neutre à côté de moi, qui s'appelle l'Ukraine, qui aura la taille qu'il aura, et je ne veux pas que l'OTAN soit installée là, je ne veux pas qu'il y ait des bases militaires étrangères à proximité de mon territoire, je ne veux pas qu'il y ait des bombardiers américains à quelques centaines de kilomètres de Moscou, que les choses soient bien claires. Bon. » Et après, je me défendrai autant que possible. On en reparlera sûrement parce que l'affaire n'est évidemment pas finie. Et c'est effectivement, on peut dire aujourd'hui, c'est le militaire qui va déterminer la forme que va prendre la sortie de conflit. Mais cette forme-là est encore, disons, en genèse. On n'y voit pas encore tout à fait clair, puisque outre les quatre républiques qui ont déjà voté par référendum leur rattachement à la Fédération de Russie, il y en a deux ou trois autres qui pourraient aussi rentrer dans la Fédération de Russie dès l'instant où elle le demanderait. Et il n'est pas exclu, d'ailleurs, que si jamais un cessez-le-feu ou un armistice intervenait et que la parole soit donnée dans toute l'Ukraine à toute la population de voter pour savoir si elle veut rester ukrainienne ou si elle veut devenir russe, il n'est pas du tout exclu que cette majorité se prononce en faveur d'un rattachement à la Russie. Et là, ce seraient les urnes et donc l'autodétermination des peuples prévues par la Charte des Nations Unies qui seraient le critère.
Ouais.
Comme ça s'est fait dans les quatre premières, le Donbass, le Zaporoyer. Bon. Ça s'est ouvert. Alors, ça s'est ouvert et je pense que du côté occidental, cette idée-là, on l'a, mais on ne le dit pas parce qu'on en a peur. Parce qu'effectivement, le risque que l'Ukraine soit limitée à pas grand-chose, disons la province la plus à l'ouest, l'ancienne Galicie polonaise, n'est pas à exclure. D'autant plus que une partie... Alors, qu'est-ce qui reste de l'Ukraine ? Qu'est-ce qui... Pas grand-chose, c'est-à-dire 15 millions d'habitants en moins, qui sont un peu partout, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Il reste un pays délabré, et il reste un pays qui... Alors, à la différence, moi j'ai vu des images, par exemple, de Mariupol, le fameux endroit Mariupol, où il y a eu cette bataille très très dure au début de l'opération militaire spéciale. Mariupol a été totalement reconstruite, il y a des fleurs dans les jardins, il y a des enfants qui vont dans les écoles, il y a des maisons neuves, il y a tout ce qu'il faut, il y a des centres sociaux, des centres culturels et tout. La Russie a fait un énorme effort pour que les provinces qui sont devenues russes par choix soient bien traitées et que la guerre soit un mauvais souvenir. Alors elle n'est pas tous les jours, puisque quand même il y a de temps en temps un drone ukrainien qui vient tuer quelque part des gens sur un marché. Ça, ils n'ont pas perdu cette mauvaise habitude, mais la vie a changé. Et donc ça se sait, ça se sait. Ça se sait tellement que les Ukrainiens, ils se parlent entre eux, ils regardent y compris les informations russes. Alors, pourquoi ils se parlent ? Et ils se parlent en quoi, d'ailleurs ?
Alors, je
reviens sur les négociations d'Istanbul, parce que les Ukrainiens ont eu beau faire les ânes, essayer de ne pas répondre à la question. Il est clair que les deux heures d'entretien à l'issue desquelles a été convenu l'échange des 1000 prisonniers se sont passées en russe.
Oui.
Parce que c'est la langue qu'ils ont en commun et que pratiquement la plupart des Ukrainiens, à l'image de Vladimir Zelensky, qui parle couramment le russe et qui parle assez mal l'ukrainien...
Même lui, il a parlé en russe.
Mais oui. Ouais. Non, les gens qui connaissent l'ukrainien, il parle l'ukrainien parce qu'il a fait un effort, mais il a un accent. Il parle mal l'ukrainien.
Ouais, c'est
bon,
ça.
Bon. Et donc, ce rapport à la Russie est un rapport extrêmement fort. Il est historique, il date de plusieurs siècles. Et c'est ça qui, in fine, va régler la question. Ce n'est pas le nombre d'obus tirés ni le nombre de drones abattus. C'est, au fond, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est cette évidence élémentaire qui est dans la Charte des Nations Unies. Alors, c'est tout à fait dommage qu'on soit passé par la voie militaire. Mais c'est ça qui doit, in fine, clôturer le débat. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puisqu'on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on va parler d'une série de peuples qui sont bien intéressés par disposer d'eux-mêmes. Je veux parler du sommet qui a eu lieu ces derniers jours, le sommet de la ASEAN. Alors l'ASEAN, c'est l'association des pays du Sud-Est, de l'Asie du Sud-Est. Alors ça va du Vietnam à l'Indonésie, en passant par la Malaisie, Singapour, les Philippines, etc. Le Laos, le Cambodge. Et ces gens-là, qui représentent quand même presque 400 millions d'habitants, des économies en pleine croissance, dans tous les cas, sont des gens qui sont unis dans un projet de développement économique commun, de voisinage, de coopération, d'échange, etc. Alors ils se sont réunis, ils ont fait leur travail, ils continuent à avancer et ils essayent de réduire les tensions avec leurs voisins. Et cette réduction des tensions a pris la forme d'une réunion qui s'est tenue hier, ou qui se tient encore aujourd'hui, je crois, et qui a consisté à réunir donc les 6 ou les 8 de la SEAN, les membres de la coopération du Golfe, c'est-à-dire le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Oman, rien que ça, et la Chine. C'est-à-dire que tout ce monde-là, donc toutes les puissances arabes, fussent-elles des puissances monarchiques, le groupe des nations d'Asie du Sud-Est et la Chine se réunissent pour parler d'un avenir commun de la région. Et ça, c'est très très important parce que c'est un facteur de réduction de tensions. On sait qu'il y a des tensions qui sont suscitées par les États-Unis par rapport à la propriété de certaines îles qui sont convoitées à la fois par la Chine et la Philippine. On trouve toujours, quand on veut fabriquer un conflit diplomatique, on trouve toujours une frontière mal tracée, un vieux souvenir, etc. Bon, là, c'est le cas. Mais le fait que tous ces gouvernements se réunissent à la demande du gouvernement de Malaisie pour parler de ces questions-là, ça veut dire qu'effectivement, l'ensemble de ces pays-là, donc du Vietnam à l'Indonésie, la Chine, l'Arabie Saoudite, sont d'accord pour limiter les tensions dans leur région du monde. Et pourquoi ils les limitent ? Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui veulent accroître les tensions, qui s'appellent les États-Unis et leurs petits amis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et subsidiairement le Japon, qui hélas... mène toujours cette politique de suivre les États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les Japonais ont été diminués intellectuellement et politiquement par les deux bombes atomiques et la défaite, et qu'ils ne sont jamais vraiment remis, puisqu'en fait, il faut savoir que le Japon, après la défaite, a eu une constitution qui est toujours en vigueur, et que cette constitution a été rédigée par le général MacArthur. Point. C'est tout. Alors quand vous êtes cette espèce de camisole...
Un peu comme en Irak. Donc.
Voilà. Cette espèce de camisole de force états-unienne sur le Japon n'a jamais craqué. Hein, et le Japon n'en est toujours pas sorti.
Non,
c'est dommage pour eux. Mais c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'avant, le régime de l'empereur était un régime type fasciste. Il avait fait effectivement des horreurs sur le sol chinois. On en reparlera au moment du 1er octobre, quand on célébrera la naissance de la République populaire chinoise. Dernière chose que je voulais citer, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, on va finir sur un petit sourire. Non, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, sur le problème iranien.
Le problème iranien. Très intéressant, puisque 3 minutes, ok. Simplement, il a été inauguré la nouvelle voie ferrée Chine-Iran. Ah bon ? Et ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que, par exemple, la semaine dernière, il est arrivé un train entier de panneaux solaires neufs, fabriqués en Chine, bien entendu, venant de la région de Xi'an. Xi'an, c'est la grande ville qui était le point de départ de la route de la soie, dans les grandes années de la route de la soie, sont arrivés dans le voisinage d'Iran, dans la nouvelle gare, donc en traversant le Kazakhstan, et puis l'Ouzbékistan, et puis le Turkménistan, et en arrivant finalement donc sur le sol iranien. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les sanctions et quelle que soit l'agitation diplomatique des États-Unis, les relations économiques entre la Chine et l'Iran sont étroites, profondes, vont encore être facilitées par l'arrivée de ces nouveaux trains. Il faut 15 jours, en gros, pour aller de Xi'an à Téhéran. Ça marche tout le temps. Bon. Et que la Chine continue à vendre son pétrole parce qu'elle a fait un tuyau à l'Iran continue à vendre son pétrole à la Chine, et dans l'autre sens, il y a des marchandises qui circulent. Donc voilà. Alors vous pouvez toujours tempêter, discuter, etc., boycotter. La vie continue. L'Iran et ses amis russes et chinois travaillent la main dans la main, et donc toute cette agitation autour du nucléaire iranien, je rappelle que l'Iran passe son temps à dire qui ne veut pas la bombe atomique, qui veut seulement qu'on le laisse tranquille. Bon, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et dernier gag, alors, vous qui avez vu M. Trump avec ses casquettes MAGA, vous savez d'où elles viennent ? Eh bien, c'est un petit artisan chinois de la province du Shandong qui a suivi, vous savez, le petit entrepreneur chinois, comme on les connaît tous, qui dit « Oh là, il y a des affaires à faire », qui a regardé tout, qui a regardé comment étaient faites ses casquettes, et c'est lui qui écrase le marché. C'est-à-dire que si jamais Trump ferme les frontières et que les casquettes ne peuvent plus arriver, ses supporters ne pourront plus se mettre un MAGA sur la tête. Eh bien, c'est un Chinois qui vend les casquettes MAGA et qui écrase le marché mondial. Voilà, on en reparlera. Merci beaucoup, Jules. À la semaine prochaine.